Phil PM Paranormal.
The flying disc has been found.
El mítico chupacabras.
Les enquêtes de Christian Page.
Christian Page, comment qu'il va?
Ça va bien, Bernard.
Ah, je suis content de te retrouver.
Ben merci, ça me fait plaisir de te retrouver aussi comme ça chaque semaine.
Et là, nous allons parler des Vikings d'abord.
Ah, tu veux que je te parle des Vikings?
Mais
c'est deux vraiment bonnes nouvelles cette semaine. Je suis assez excité.
Ah, ben vas-y, laisse-toi aller, là.
Donc, la première, effectivement, on parle des Vikings. Bon, pour les gens qui l'ignoraient, les Vikings ont fait une occupation au Canada. On le sait, c'est à Lance-aux-Meadows, c'est sur l'île de Terre-Neuve. J'y suis allé une fois, Bernard.
Moi aussi.
C'est vraiment le bout du monde. Hein?
Oui, tu es là.
Moi, je me rappelle, on était parti de Saint-Jean-Terre-Neuve. On a remonté jusqu'à Lance-aux-Meadows. Oui. Il ventait, il faisait froid. C'est vraiment le bout du monde. Hein? On a l'impression qu'on est au bout du monde à Lance-aux-Meadows. Et il y a là les vestiges d'une petite communauté viking qui s'appelle Vinland. Et cette occupation jusqu'à... Et là, c'est là un peu notre nouvelle. Jusqu'à il y a quelques semaines, on croyait que cette occupation avait perduré entre à peu près le 985 et 1022. Donc, grosso modo, à peu près une quarantaine d'années. On parle ici d'une petite communauté, hein, une cinquantaine de personnes qui se seraient établies et de manière permanente pendant cette quarantaine d'années avant de retourner au Groenland. On sait qu'il y avait des chroniques au Groenland qui parlaient d'une communauté viking. En fait, les historiens préfèrent parler des Norrois, hein, parce que ce sont plus des peuples du Nord qui ont été regroupés sous l'appellation des Vikings, mais ce sont des Norrois. Et on parlait donc qu'il y avait une communauté qui s'était installée à l'ouest du Groenland. Évidemment, les Vikings n'ont jamais été considérés comme les découvreurs de l'Amérique parce qu'on comprend qu'au moment où ils installent leur colonie en Terre-Neuve, ils ignorent qu'ils sont sur un nouveau continent. Ils ont l'impression que c'est simplement une île plus à l'ouest du Groenland.
Oui.
Donc, on a reconstitué le village. C'est très, très beau. Tu arrives là, tu as vraiment l'impression de replonger autour de l'an 1000. Hein. Tout a été reconstruit comme c'était à cette époque. Mais là, voilà qu'on apprend qu'on a peut-être erré ou peut-être on était pessimiste par rapport à l'occupation des Vikings. En fait, on a les identifications qu'on avait jusqu'à ce jour dataient de... On avait trouvé des éléments qui démontraient cette occupation humaine. Il y avait eu des datations carbone 14. Et là, on avait donc cette fourchette assez précise entre 986 et 1022. Et là, voilà que l'an dernier, les scientifiques ont décidé de faire des prélèvements de tourbe sur le site même de Vinland, de ce petit village à Lance-aux-Meadows. Et là, en faisant ces prélèvements, ils ont découvert des traces d'occupation plus récentes. Alors là, on a commencé à faire de nouvelles analyses au carbone 14 sur ces nouvelles strates d'occupation humaine. Et là, la nouvelle hypothèse que proposent les scientifiques, et tout ça vient de paraître cette semaine dans le Proceeding of the National Academy of Science. Donc, c'est un article très rigoureux dans un périodique scientifique.
Absolument.
Et les chercheurs, parmi lesquels d'ailleurs se trouve une archéologue de l'Université de Montréal, ces scientifiques-là prétendent qu'en fait, il y a eu cette première occupation à Lance-aux-Meadows, autour du 10e siècle. Et ensuite, les gens qui occupaient cet espace, les Norrois, sont visiblement retournés au Groenland. Mais l'endroit est devenu un peu un plan, si je pourrais dire, où les gens retournaient occasionnellement. Donc, entre les...
C'est comme un lieu de passage.
Oui, c'est ça. C'est une espèce d'avant-poste. Hein? Donc, entre le 10e et le 13e siècle, il est possible, et c'est ce que semblent indiquer ces nouvelles découvertes archéologiques, il semble très possible que des petites communautés de Vikings ou de Norrois, si tu préfères, partaient du Groenland, venaient s'établir sur des courtes périodes de temps à Lance-aux-Meadows pour faire ou de la chasse ou de la pêche avant de retourner au Groenland.
Faire le plein de morue, peut-être.
Voilà.
Hein? Ben oui.
Il l'aurait fait pendant à peu près 250 ans. Et pour te parler... Bon, évidemment, il y a toujours une espèce de doute qui plane. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, les scientifiques reconnaissent que cet endroit de Terre-Neuve a été occupé depuis 5000 ans par des groupes autochtones d'Amérique du Nord, hein, les Innus et autres. Alors évidemment, on se demande, est-ce que les traces de cette occupation postérieures à la première évaluation sont bel et bien celles de Norrois revenus du Groenland, ou est-ce que ces terres auraient été occupées pendant de courtes périodes de temps par des groupes autochtones arrivés sur place? Là, pour l'instant, ça reste un peu à débattre, mais les éléments qu'on a sous la main semblent bel et bien indiquer que les Norrois, les Vikings, auraient occupé cette anse, l'endroit de l'anse aux Meadows, pendant non pas une quarantaine d'années, mais pendant, de façon plus ou moins soutenue, pendant à peu près 300 ans.
Mais là, ce que tu viens de nous dire là, comment je te dirais ça? Ça nourrit mon imagination? Parce que, veux pas, je me pose la question, se pourrait-il qu'à un moment donné, les Vikings et les Inuits, ou enfin les Autochtones, qui ont fréquenté cet endroit, se pourrait-il qu'ils se soient vus, qu'ils se soient rencontrés à un moment donné?
Bernard, tu mets le doigt sur la grande question. Parce que dans le milieu de l'étrange, de l'insolite, les gens qui adorent les mystères, il faut pas se le cacher, le long de la côte est de l'Amérique du Nord, de la Nouvelle-Écosse jusqu'au Connecticut, on a trouvé des vestiges de pierres, de l'écriture sur des roches qui ressemblent à de l'ogam, donc écriture qu'utilisaient les Vikings aux alentours de l'an 1000. On a même retrouvé près du lac Ontario une épée qui est exposé aujourd'hui au Musée royal de Toronto, une épée viking. L'origine de l'épée reste très controversée, mais néanmoins, on a trouvé une épée viking. Alors la question, les amateurs de mystère se disent, est-ce qu'il est possible que les Vikings soient entrés beaucoup plus loin sur les terres? Est-ce qu'ils auraient pu être en contact avec les groupes autochtones? On le sait, il y a plein de légendes autochtones dans l'Est de l'Amérique, où on parle de contact avec des hommes blancs venus sur des navires. On a toujours attribué ça comme étant une récupération du mythe des premières rencontres entre colons, entre Cartier et autres. Mais si ces récits-là étaient plus anciens encore, s'ils étaient le souvenir d'une rencontre beaucoup plus antérieure à l'arrivée des premiers colons français.
C'est fascinant,
C'est fabuleux comme histoire.
Il faut
quand même le dire, les historiens ne rejetaient pas cette possibilité. Ils disaient, nous n'avons pas de preuves pour étayer ça. Et partant du fait qu'on avait une occupation à l'anse aux Meadows qui n'avait duré qu'une quarantaine d'années, on se disait que l'occupation était trop courte pour imaginer des contacts ou des voyages étendus dans l'est de l'Amérique du Nord. Mais cette nouvelle découverte vient relancer ce débat et les amateurs de mystères qui imaginaient des contacts entre les sociétés autochtones et des gens venus du Nord, ces hommes blancs à la barbe rousse. Peut-être que finalement, il y avait au-delà de ça une véritable réalité historique plutôt qu'un simple mythe.
Oui, voilà, exactement. Alors là, évidemment, ça pourrait nourrir de très bons scénarios, ça, là. Imagine-toi une rencontre entre ces deux civilisations, ces deux peuples-là. Il nous reste quelques minutes parce que je veux vraiment que tu nous parles, que tu nous donnes la dernière sur Nessie. Nessie, le monstre du Loch Ness, parce que là, il y a des nouvelles très importantes que tu dois absolument nous transmettre.
Oui, j'étais excité. Écoute, l'an dernier, parce que j'aime beaucoup quand la science s'intéresse au paranormal. Elle donne une parole au bon sens et à la critique, alors que généralement, on a toutes sortes d'histoires invraisemblables. Alors, l'an dernier, un scientifique, un spécialiste de la génétique de l'Université d'Otago, ça se trouve en Nouvelle-Zélande, ce type-là, Neil Gemmell, s'est rendu au Loch Ness et il a fait des prélèvements d'eau dans le Loch Ness. Alors, le Loch Ness, c'est ce long fleuve, ce long lac d'Écosse. Il fait 30-40 kilomètres de long sur 1 kilomètre de large. C'est un peu comme une balafre, je dirais, dans le visage de l'Écosse. Et où, depuis maintenant 1500 ans, on raconte qu'il y aurait une créature mystérieuse, un monstre lacustre qu'on a surnommé Nessie, et qui est une source inépuisable pour l'activité touristique locale.
Je ne l'ai pas vu. Personnellement, je ne l'ai pas vu, Christian.
Non, j'y suis allé, moi, quelques reprises au Loch Ness. Je ne l'ai pas vu, non plus.
Non, toi non plus. Bon.
Mais là, donc, ce professeur Gemmell arrive au Loch Ness, il prend 250 échantillons d'eau, il applique une nouvelle technologie qu'on appelle l'ADN environnemental. Toute espèce animale qui occupe un environnement va laisser des débris derrière lui, que ce soit des morceaux de peau, des ongles, que l'animal va déféquer, de l'urine, etc., des déchets organiques. L'animal va, d'une certaine façon, entre guillemets, contaminer son environnement. Et aujourd'hui, les technologies de pointe permettent d'analyser ces environnements ou des échantillons de l'environnement pour permettre, et en particulier dans un lac, pour permettre un échantillonnage qui permet d'identifier les espèces. Alors, le professeur Gargamel, l'an dernier, s'est bien défendu en disant « Nous ne cherchons pas le monstre du Loch Ness. Nous essayons d'établir une carte, un profil précis des animaux qui vivent dans le Loch Ness. Et s'il y a un monstre, ben, on va le voir. » Et voilà que cette semaine, il tient une conférence de presse. Ils ont fait des millions de séquençages. Il arrive à la conclusion, il n'y a pas de plésiosaures et de monstres préhistoriques dans le Loch Ness. Pas de poisson-chat, pas d'esturgeon, pas de requin, parce qu'on avait imaginé des requins du Groenland. Et il n'y a pas non plus d'ADN d'une espèce inconnue dans le Loch Ness. En revanche, ils ont trouvé énormément d'ADN d'anguilles. Alors, ce que le professeur Gemmell propose, il dit, bon, il n'est pas question, on ne remet pas en question le témoignage des gens qui affirment avoir vu des choses mystérieuses dans le Loch Ness, mais allons ici vers le bon sens. L'idée du monstre, hein, l'animal inconnu dans le Loch Ness, ça, c'est de la légende, c'est du mythe, c'est de la fantaisie. En revanche, il n'est pas interdit que les gens aient pu voir de très, très grosses anguilles. De façon générale, les anguilles, oui.
Ben là, ça prend une maudite grosse anguille là, pour penser que c'est un monstre.
C'est vrai que les anguilles...
Écoute, j'en ai pêché des anguilles, moi, là. J'aurais pas pensé que c'était un monstre du Loch Ness ou un monstre de l'île du Pas, là, ça.
Sûr. Mais les anguilles, il faut quand même, peuvent atteindre de 4 à 6 mètres. Le docteur Gemmell dit, et peut-être qu'il y a quelques anguilles qui dépassent ces dimensions, qui sont de très, très, très grande taille. Mais écoutez, je sais que c'est un peu péter notre balloon, mais ici, la science s'est prononcée, et elle s'est prononcée avec des outils rigoureux. Je pense qu'il faut maintenant chercher dans cette voie-là. Et aussi, peut-être, le scotch écossais n'est peut-être pas étranger aux observations du monde.
Non, mais là, j'aimerais ça qu'on cherche une anguille de 6 mètres de long. Ça, là, j'aimerais savoir ça. C'est ça la prochaine étape, Christian.
Bon, parfait, on va se mettre là-dessus.
OK, mets-toi là-dessus. Christian Page, je te remercie.
Ça fait plaisir, Bernard.
Je remercie Maryse Duchesneau, Alexandra Marcoux et Larry Dufresne. C'est l'équipe de Drainville PM. Maryse, Alexandra et Larry, on travaille bien ensemble, on a du plaisir. Je vous souhaite un bon week-end. À lundi, tout le monde.